إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل بعون الله وفضله العظيم دراستنا لكتاب أصول في التفسير للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وما زلنا في باب كتابة القرآن وجمعه. وذكرنا بحمد الله عز وجل أن كتابة القرآن وجمعه لهما ثلاث مراحل. الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة. طيب، donc nous sommes toujours dans le chapitre concernant l'écriture du Coran, يعني la mise à l'écrit du Coran et de son assemblement. Et il a dit le Cheikh Hafidhahullah wa Rahima que cela s'est déroulé en trois étapes. La première, à l'époque du prophète alayhi salat wa salam. Donc durant cette étape-là, les gens s'appuyaient davantage sur la mémorisation que sur l'écrit. Taïeb, c'était une époque où les gens s'appuyaient davantage sur la mémorisation que sur l'écrit. Donc lorsque ils écoutaient un verset, ils le mémorisaient. Jayed, Naam. Et il se pouvait que, mais c'était beaucoup plus rare, qu'ils écrivaient le Coran sur certains objets, certaines choses telles que des rameaux, hein, ou des branches de palmier, ou des morceaux de peau animale, ou des genres de galets, ou des os d'animaux, etc., etc. Mais la majorité était mémorisée et non écrite. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في سنة الثانية عشر من الهجرة. طيب، في السنة الثانية عشر من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة، أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم. La deuxième étape, à l'époque de Abi Bakr, c'est-à-dire après la mort du prophète, عليه الصلاة والسلام, à l'époque du califat, hein, de l'khilafa, de Abi Bakr, رضي الله عنه, c'est-à-dire à la 12e année après l'Hijr. Donc Abu Bakr a ordonné que l'on réunisse le Coran. Il y a les écrits du Coran. Et cela, car un nombre important de lecteurs, yani de mémorisateurs du Coran, avaient été tués. Et parmi eux, Salim, Mawla de Abi Hudhayfa. Salim, l'esclave affranchi de Abi Hudhayfa. Donc, il faisait partie de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné que on apprenne le Coran parmi eux. Al-marhala في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في سنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله ويتفرقوا. Et enfin, la troisième étape, à l'époque de Uthman ibn Affan. Hein? Donc, après le califat de Omar, après le califat d'abord d'Abu Bakr, puis de Omar, vint celui de Uthman, donc à l'année 25 après l'Hégire. Donc, la 25e année après l'Hégire, Uthman, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a vu que les gens, les musulmans, ont commencé à se disputer par rapport à la lecture du Coran, hein, par rapport à la différence qu'il y avait dans certaines récitations et certains suhuf, certaines feuilles qui se trouvaient dans les mains des sahaba, des compagnons, eh bien, il a eu peur, il a redouté la fitna, le trouble et la dissension. Et donc, il a ordonné à ce moment-là, Uthman, radiyallahu anhu, de réunir tous les suhuf, toutes les feuilles sur lesquelles étaient écrits donc les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a ordonné qu'on réunisse tout et qu'on les écrive dans un seul et même mushaf, dans un seul et unique mushaf, au niveau de la forme et au niveau de la version, Jayid, pour que les gens ne divergent plus et ne se disputent plus au sujet du livre d'Allah tabarak wa ta'ala et ne se divisent pas. Na'am. Jayid. ثم قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الفرق بين جمعه وجمع أبي بكر، أي بين جمع عثمان وبين جمع أبي بكر رضي الله عنه، أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. أما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف أو المخيف باختلاف القراءات. Donc la différence entre ce qu'a fait Uthman et ce qu'a fait Abu Bakr, la différence entre l'assemblage du Coran à l'époque de Uthman et l'assemblage du Coran à l'époque de Abu Bakr, eh bien c'est l'objectif. Car l'objectif de l'assemblage du Coran à l'époque de Abi Bakr était le fait de mettre à l'écrit donc le Coran en entier, Tayyib, réuni dans un mushaf afin et dans le but de ne pas perdre le Coran, hein, dans le but de ne pas oublier que le Coran yani disparaisse en étant oublié, car comme on a dit, beaucoup de mémorisateurs du Coran avaient été assassinés et avaient été tués à l'époque de Abi Bakr. Donc il a eu peur que le Coran soit oublié. Donc il a ordonné que l'on réunisse tous les versets et qu'on écrive tous les versets dans un mushaf. Mais sans pour autant yani, réunir les gens autour d'un seul et même mushaf. Donc il y avait encore ces différentes lectures qui existaient à l'époque de Abi Bakr. Différentes versions. D'ailleurs, car il n'y avait pas encore ces querelles et ces divergences entre les musulmans à cause des différentes qira'at, des différentes lectures. Donc il n'a pas vu à ce moment-là, Abou Bakr, qu'il était bon de réunir les musulmans car il n'y avait pas encore ces dissensions-là et ces troubles. Jaïd. Alors que l'objectif de Uthman, au contraire, dans le fait d'assembler le Coran, était d'écrire aussi le Coran, bien sûr, mais de les réunir dans un seul et même et unique mushaf, sous une seule lecture. Et c'est pour ça qu'il a ordonné également de détruire les autres lectures et les autres versions, pour justement supprimer toute divergence et toute dispute. Dans le but, ici, le but de Uthman était bel et bien de réunir les gens, hein, de ramener l'harmonie entre les gens à cause de ce qu'il avait témoigné, d'ailleurs, des divergences à cause des différentes lectures. نعم وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين فلله الحمد فلله الحمد لله رب السماوات رب الأرض رب العالمين Puis finit le chapitre Cheikh Al-Thaymin, rahimahullah, en disant que les résultats positifs de ce qu'a fait Uthman, radiallahu anhu, n'ont pas tardé à apparaître. Alhamdulillah. Donc on a vu après cela une maslaha, un bienfait immense, un profit grandiose, yani pour la communauté des musulmans au niveau de l'harmonie, au niveau de l'entente entre musulmans. Hein, l'union des musulmans, l'affection les musulmans les uns envers les autres, et également yani, parmi les conséquences de ce qu'a fait Uthman radiallahu anhu, le fait qu'il ait repoussé un grand mal, le fait qu'il ait repoussé un mal encore plus grand que le fait de yani, détruire les différentes qira'at qui existaient. Et ce mal plus grand là, c'est quoi? C'est la division de la Ummah. C'est la division de la communauté. Hein? Et le fait que l'animosité, l'inimitié se répandent, voyez, entre les musulmans. Naam. Et donc, ce mushaf-là, le mushaf d'Uthman, radiallahu anhu, il est resté jusqu'à nos jours. Et les musulmans sont unanimes. Ils l'ont rapporté de manière mutawatir. C'est-à-dire, à chaque génération, un nombre yani, important et conséquent de gens l'ont rapporté, l'ont transmis hein, de génération en génération. Le jeune l'a pris du plus grand et il n'a pas pu être falsifié ou modifié dans la main des corrupteurs et de ceux qui sont égarés du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la louange revient à Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des cieux et le Seigneur de la terre, le Seigneur de l'univers. Thumma nantaqil ila bab al-tafsir. Bab al-tafsir. فقال الشيخ رحمه الله التفسير لغة من الفسر وهو الكشف عن المغطى وفي الاصطلاح هو بيان معاني القرآن الكريم التفسير اصطلاحا بيان معاني القرآن الكريم. Donc le tafsir dans la langue arabe, c'est al-fasr. Al-fasr, c'est le fait d'enlever l'enveloppe ou le fait de dévoiler quelque chose qui est voilé, ou le fait de supprimer l'enveloppe de quelque chose qui est enveloppé. Par exemple, quand tu enlèves la peau d'un fruit, eh bien, tu fais un tafsir, tu fais un fasr, car tu as enlevé la peau, tu as enlevé l'enveloppe. Voyez, à la fasr. Donc, tafsir, dans la langue arabe, ça veut dire ça. Mais dans le langage religieux, quand on parle de tafsir dans la science religieuse, eh bien, c'est le fait de expliquer et d'exposer l'essence du noble Coran. Le tafsir, dans le langage religieux, c'est le fait d'expliquer, mettre en évidence, quoi? L'essence du Coran, l'essence de la parole d'Allah. Hein? Ça, c'est le tafsir. Taïeb? وَتَعَلُّمُ التَّفْسِيرِ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. وجه الدلالة من الآيات الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، وتدبره وتأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. Puis dit le cheikh al-Thaymin, rahimahullah. Donc, l'apprentissage du tafsir, l'apprentissage des sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est obligatoire. Hada wajib, c'est obligatoire. Toi, lorsque tu récites dans chaque prière la sourate Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din, il t'est obligatoire, c'est une obligation pour toi de connaître le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din. Taïeb, la preuve c'est quoi? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate Swad, verset 29. Dans le sens rapproché, Allah dit: voici un livre que nous avons descendu sur toi, béni, un livre béni, afin qu'il médite sur ces versets. Afin qu'il médite sur quoi?
Ces versets.
Sur ces versets. Et afin que ceux qui sont doués de raison se rappellent. Afin que ceux qui sont doués de raison se rappellent. Et également la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, sourate Muhammad, verset 24, il dit à Allah: ne méditent-ils pas sur le Coran ou ont-ils sur les cœurs des cadenas? Hein? Ne méditent-ils pas sur le Coran ou est-ce que leurs cœurs, yani, sont scellés, sont fermés? Donc l'argumentation ici, dans le premier verset, eh bien, c'est qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a exposé ici la sagesse, la raison pour laquelle il a descendu ce Coran béni. C'est quoi la raison? Pourquoi Allah jalla wa ala, il nous a révélé ce Coran? Eh bien, afin que les gens méditent sur ces versets. C'est ça le but, l'objectif. C'est pas juste de le lire sans méditer, sans réfléchir, mais c'est de méditer au contraire sur ces versets et le fait de en tirer des leçons, en tirer des les enseignements. Donc, tadabbur, c'est ça, c'est la méditation, la réflexion autour des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'atteindre la compréhension de ces paroles. Taïeb, car si tu ne médites pas et tu ne pourras pas comprendre, et si tu ne comprends pas, eh bien du coup, tu seras passé à côté de la sagesse, de la raison pour laquelle Allah il a révélé, il a descendu le Coran. Donc le Coran sera dans ce cas-là, yani une simple parole, de simples mots uniquement, mais qui n'ont pas de répercussion, qui n'ont aucune répercussion et qui n'ont aucune conséquence. Wal'iyadhu billah. ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه ووجد الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها وكان سلف الأمة على ذلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه لأنهم بذلك يتمكنون من العمل من القرآن على مراد الله به فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. Ensuite, il dit, et il n'est pas possible, car il n'est pas possible de tirer des leçons du Coran, d'en tirer des enseignements sans comprendre ce qu'il y a dedans. Sans comprendre ce qu'il y a dedans. Vous voyez ? C'est comme si toi, tu vas lire un livre sur la médecine. Tu vas le lire du début à la fin. Tous les mots qu'il y a dedans, tu vas le lire sur la médecine. Mais tu ne comprends rien de ce qu'il y a dedans. Tu ne comprends pas. Est-ce qu'à la fin, tu peux dire que tu es calé en médecine? Non, tu n'as rien compris. Taïeb. Donc, le deuxième verset, l'argumentation par rapport au deuxième verset, est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dedans, il a réprimandé et condamné ceux qui ne méditent pas sur le Coran. Taïeb. Et il a indiqué le fait que ces gens-là ont le cœur scellé, ont le cœur cadenassé. Et donc, du coup, le bien ne pourra pas rentrer dans ce cœur-là. Hein? Quelqu'un qui ne médite pas le Coran, le bien qu'il y a dedans ne pourra pas rentrer dans son cœur. Car il ne va pas le comprendre. Il ne pourra pas en profiter. Et les salafs, les prédécesseurs de la communauté, ils étaient, alhamdoulilah, sur cette voie, cette tariqa, qui est qu'ils apprenaient le Coran. Non seulement, bien sûr, les mots du Coran, les versets coraniques, mais aussi ils apprenaient quoi? Ils apprenaient leur sens et leur signification. Taïe, car en faisant cela, ils pourront yani, mettre en pratique ce qu'il y a dans le Coran. Hein? Conformément à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la mise en pratique et l'application du Coran ne peut être connue et apprise, voyez, que si on connaît l'essence des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si toi tu ne sais pas ce qu'Allah jalla wa ala dit, tu ne comprends pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien l'application sera impossible. Comment peux-tu appliquer ce qu'il y a dans le Coran, si tu ne comprends pas ce qu'il y a dedans. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. Puis il dit, Abu Abd al-Rahman al-Sulami a dit, ceux qui nous ont fait lire le Coran, yani ceux qui nous ont enseigné et fait réciter le Coran, tels que Uthman ibn Affan, tels que Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhuma, et d'autres que eux deux, Jayid, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsqu'ils apprenaient le Coran de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils apprenaient, ils disaient, 10 versets. Lorsqu'ils apprenaient 10 versets, eh bien, ils ne passaient pas à d'autres versets là que ces 10. Ils restaient sur ces 10 versets. Et ils ne passaient pas à d'autres versets tant que ils ne les avaient pas apprises au niveau de la compréhension, mais aussi au niveau des actes et de l'application. Et il disait donc, nous apprenions le Coran ainsi que la science et les actes en même temps. C'est-à-dire qu'ils mémorisaient le Coran, ils le mémorisaient, ils apprenaient également le tafsir de ce qu'ils avaient mémorisé, ils mémorisaient 10 versets. Vous voyez, 10 versets, puis ils apprenaient le tafsir de ces 10 versets, puis ils appliquaient ces 10 versets. Une fois que cela a été fait, il passait au verset suivant, et ainsi de suite. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ أو أن نعم أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم، ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. فتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. فالغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله جل وعلا ليعبد الله بها على بصيرة. نعم. Puis il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a dit, et bien sûr, l'habitude fait que lorsque des gens lisent un livre dans une des sciences telle que la médecine ou le calcul, hein? C'est impossible que ces gens-là ne cherchent pas à comprendre. Ils ne cherchent pas à ce qu'on leur explique ce qu'il y a dans ces livres. Donc ils vont forcément demander soit à l'auteur de ces livres de médecine ou ces livres de calcul, d'algèbre, mathématiques, etc. Ils vont leur demander qu'il leur explique ce qu'il y a à l'intérieur. Il est impossible qu'ils lisent un livre sans demander l'explication et sans chercher à comprendre ce qu'il y a dedans. Que dire alors de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui est donc leur salut, qui est leur bonheur, leur félicité, et la droiture de leur religion et de leur dunya. C'est pour cela qu'il est obligatoire aux gens de science d'exposer cela aux gens, que ce soit par écrit, comme l'ont fait les exégètes des premiers siècles, ou de manière verbale, comme le font aujourd'hui encore les mashayikh, les ulama. Tayyib, en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sens rapproché, et rappelle, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement de ceux à qui on a donné le livre, exposez-le, exposez-le aux gens et ne le cachez pas. Et ne le cachez pas. Voyez? Donc le fait d'exposer le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala aux gens, eh bien ça concerne également le fait d'exposer ces mots, ces versets, mais aussi ses sens et ses significations. Voyez? Et donc le tafsir du Coran fait partie des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a pris comme engagement de la part des gens de science. De la part des gens de science. Et cet engagement, c'est quoi? C'est le fait de l'exposer et de l'expliquer aux gens, aux musulmans. Donc l'objectif du fait d'apprendre le tafsir, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait d'atteindre les buts nobles et les enseignements grandioses qui est le fait de croire et de rendre véridique toutes ces informations et de profiter de toutes ces informations et afin de les appliquer, d'appliquer leur sentence, d'appliquer leurs règles conformément à la volonté d'Allah Jalla wa Ala, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré par ces règles-là, par la compréhension de ces versets-là, subhanahu wa ta'ala, de ces versets-là, et qu'Allah soit adoré subhanahu wa ta'ala avec yani clairvoyance. Naam. قال الشيخ الشثري حفظه الله تعالى قال ما حكم تفسير القرآن نقول هذا من بيان العلم وبيان العلم من الواجبات على العلماء لأن الله جل وعلا قد أخذ الميثاق على العلماء أن يبينوا هذا الكتاب وهذا الدين كما قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ومن أنواع البيان تفسير هذا القرآن ويدلك على ذلك أن الله جل وعلا قد حرم كتم العلم الذي يحتاج إليه الناس كما في قوله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فترك تفسير القرآن بالنسبة للعلماء مع حاجة الناس إلى فهم القرآن هذا كتم للعلم. Donc, quel est le jugement du tafsir du Coran? Donc, tafsir du Coran, c'est quoi? C'est d'exposer la science. Ça fait partie, yani, de l'exposé de la science. Et l'exposé de la science est une des obligations qui pèsent sur les savants. Car Allah tabaraka wa ta'ala a pris l'engagement des savants d'exposer ce livre-là aux gens. Taïeb, et cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens rapproché, il a dit, et rappelle, quand Allah tabaraka wa ta'ala a pris l'engagement de ceux à qui le livre a été donné, expliquez-le aux gens. Tahil, la tubayyinunnahu linnas. Donc, fait partie des procédés d'exposer le livre d'Allah aux gens. Eh bien, le tafsir.
l'expliquer, expliquer le Coran. Une chose nous le montre également, cette chose-là, c'est le fait qu'Allah, Jalla wa Ala, il a interdit la dissimulation de la science. Il a interdit le fait de cacher la science. Cette science dont les gens ont besoin. Hein, il a dit Allah subhanahu, de la science rapprochée, ceux qui cachent ce que nous avons descendu de preuves et de guidance après que nous l'ayons exposé aux gens dans le livre, ceux-là sont ceux qu'Allah tabarak, ou ceux-là, Allah les maudit, et ceux-là, les maudisseurs, les maudissent. Donc ici, le verset est clair, il est interdit de cacher la science. Et parmi cette science-là, l'essence des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le fait de délaisser l'apprentissage du tafsir, du Coran, par rapport aux ulama, le fait de délaisser l'enseignement du tafsir par rapport aux ulama, alors que les gens en ont besoin, ils ont besoin de comprendre le Coran, alhamdulillah. Eh bien, cela fait partie du fait de cacher la science. D'ailleurs, et donc cela sera interdit par Allah subhanahu. Fa tazdad درجة وجوب التفسير للقرآن عند فشو الجهل وانتشاره وفي أزماننا هذه الحمد لله يهديك الله أصلح بابا وفي أزماننا هذه من أكثر الأزمان فشوا للجهل فالوقائع التي تقع للناس كثيرة ومتعددة وما من واقعة تقع للناس إلا وفيها آية أو آيات من هذا الكتاب فمن هنا لا يجوز لعالم من علماء الشريعة أن يتكلم في وقائع الناس بحسب ما يراه بهواه أو بعقله المجرد فإن هذا من القول على الله بلا علم بل الواجب إرجاع وقائع الناس إلى الكتاب والسنة وإذا أخذت وقائع الناس بمرئيات الناس المجردة فإنه حينئذ يصبح العالم مماثلا لغيره نعم Et donc cette obligation-là qui pèse sur les savants, les gens de science, qui est d'exposer le sens des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est d'autant plus forte lorsque l'ignorance se propage sur terre et se diffuse parmi les musulmans. Et donc, à notre époque, la nôtre, dans laquelle l'ignorance est largement répandue, cela est d'autant plus obligatoire et nécessaire. Donc, al-waqaya, c'est-à-dire les événements, les circonstances qui touchent yani, les gens, sont très nombreux et divers. Mais il dit le Cheikh Chethri, rahimahullah wa hafidha, il n'y a pas un événement ou une situation qui se produit sans qu'il n'y ait dans le Coran un verset ou des versets qui vont venir nous donner un enseignement et des règles concernant cet événement, concernant cette chose-là qui s'est produite dans la vie des gens, jusqu'à nos jours, et ce jusqu'à la fin des temps. Ainsi, il est interdit aux savants, parmi les savants de la charia, de parler sur ce qui se produit et ce qui arrive aux gens par ses passions, de par son opinion et de par ses passions, ou de par son intelligence uniquement. Hein? Le fait de dire cette chose-là, elle est halal, ou cette chose-là, elle est haram, mais sans revenir à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et sans revenir à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela serait donc le fait de serait considéré comme étant une parole sur Allah sans science. Il est donc obligatoire en fait de retourner dans toutes les affaires concernant la vie des gens, la vie des individus ou la vie de la société, on doit retourner dans tous les cas au livre d'Allah et à la sunna. Car si on considère maintenant pour régler un conflit, pour régler un problème qui touche les gens, si on s'appuie sur l'avis et l'opinion des gens uniquement, eh bien, le savant deviendrait par conséquent comme tous les autres. Un savant, Yanni, qui va s'exprimer et parler uniquement de par sa tête, sans revenir au Coran et à la Sunna, eh bien, en vérité, ce n'est pas un savant, c'est tout simplement, Yanni, quelqu'un de normal. Donc un vrai savant, c'est quelqu'un qui va s'appuyer sur le livre d'Allah et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour émettre une fatwa, pour émettre un jugement. D'ailleurs, amma idha tamma irja'u waqa'i an-nas ila adillat al-kitab wa sunna fa hadha yamtaz bihi ulama wa shari'a wa bahalla bin-nas min nakasat aw masa'ib إلا بسبب البعد عن الكتاب والسنة فدلك على ذلك أنه لا تحصل مصالح الخلق إلا بتحكيم هذا الكتاب ولا يمكن للناس أن يحكموه على وقعهم إلا إذا قام علماء الشريعة بتفسيره وإيضاح معانيه فإن الله جل وعلا قد أخبر أن هذه الشريعة رحمة وأنها خير وأنها صلاح وأنها سبب للسعادة ولا يكون ذلك إلا بفهم هذا الكتاب ولا يحصل الفهم بنسبة لعوام إلا بتفسير العلماء للآيات القرآنية. نعم. Mais quand justement on va respecter et on va mettre en pratique le fait de retourner concernant les affaires des gens, les événements, on va retourner à chaque fois au livre d'Allah et à la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et bien c'est comme ça que les ulama vont se distinguer. C'est comme ça que les gens de science ils vont se distinguer par rapport aux autres personnes. Donc il n'y a pas un malheur, il n'y a pas un désastre qui touche les gens sans qu'en vérité ce ne soit à cause de leur éloignement du livre d'Allah jalla wa ala de la sunna. Et cela nous indique également le fait que il ne peut y avoir une réforme pour la créature si ce n'est en prenant comme arbitre le kitab et la sunna. Il n'est pas possible, et il n'est pas possible que les gens prennent pour arbitre le livre d'Allah tabarak wa ta'ala concernant leurs affaires, hein, sans que les ulama de la législation procèdent à l'explication du livre d'Allah tabarak wa ta'ala, sans que les ulama clarifient l'essence de ce qu'il y a dans le Coran al-Karim. Donc les gens, les gens de la masse, ne pourront pas prendre pour juge et prendre pour arbitre le livre d'Allah tabarak wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'ils ne le comprennent pas. Ils ne peuvent pas le comprendre si les ulama ne l'expliquent pas. Et si les ulama, les imams, les prêcheurs, hein, ne expliquent pas le Coran dans les mosquées et ne font pas des cours de tafsir dans les mosquées. Jayid, Allah tabarak wa ta'ala, il a informé que cette charia, cette législation, c'est une rahma, une clémence, une grâce. C'est un bien, c'est une réforme et c'est une cause de félicité, ici-bas et dans l'au-delà. Mais cela ne pourra se produire que si l'on comprend le Coran. Wallahi, tu ne pourras pas en profiter de ce Coran si tu ne le comprends pas. et cette compréhension-là ne peut exister chez les gens de la masse que si les savants l'expliquent et font le tafsir des versets coraniques du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. فأرجو أن هذا يكون واضحا فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.